Lucien Levenne, chapitre 50. Le préfet, monsieur de Riquebourg, les reçut en bonnet de coton, mangeant une omelette, seul dans son cabinet, sur une petite table ronde. Il appela sa cuisinière Marion, avec laquelle il discuta fort posément sur ce qui restait dans le garde-manger et sur ce qui pourrait être le plus tôt prêt pour le souper de ces messieurs. « Ils ont 19 lieues dans le ventre !» dit-il à cette cuisinière, faisant allusion à la distance parcourue par les voyageurs depuis leur dîner à Blois. La cuisinière partit. « C'est moi, messieurs, qui compte avec ma cuisinière. Par ce moyen, ma femme n'a que l'embarras des bambins. Et moi, en laissant bavarder cette fille, je sais tout ce qui se passe chez moi. Ma conversation, messieurs, est toute dévouée à ma police, et bien m'en prend, car je suis environnée d'ennemis. Vous n'avez pas d'idée, messieurs, des frais que je fais. Par exemple, j'ai un perruquier libéral pour moi, et le coiffeur des dames légitimistes pour ma femme. Vous comprenez, messieurs, que je pourrais fort bien me faire la barbe. J'ai 2 petits procès que j'entretiens uniquement pour donner occasion de venir à la préfecture au procureur, monsieur Clapier, l'un des libéraux les plus matois du pays, et à l'avocat, monsieur Lebeau, personnage éloquent, modéré et pieux, comme les grands propriétaires qu'il sert. Ma place, messieurs, ne tient qu'à un fil. Si je ne suis pas un peu protégé par son excellence, je suis le plus malheureux des hommes. J'ai pour ennemi, en première ligne, monseigneur l'évêque. C'est le plus dangereux. Il n'est pas sans relation avec quelqu'un qui approche de bien près l'oreille de sa majesté la reine, et les lettres de monseigneur l'évêque ne passent point par la poste. La noblesse dédaigne de venir dans mon salon et me harcèle avec son Henri V et son suffrage universel. J'ai enfin ces malheureux républicains, ils ne sont qu'une poignée et font du bruit comme 1000. Le croiriez-vous, messieurs? Les fils des familles les plus riches, à mesure qu'ils arrivent à 18 ans, n'ont pas de honte d'être de ce parti. Dernièrement, pour payer l'amende de 1000 francs à laquelle j'ai fait condamner le journal insolent qui avait semblé approuver le charivari donné à notre digne substitut du procureur général, les jeunes gens nobles ont donné 67 francs et les jeunes gens non nobles 89 francs. Cela n'est pas horrible? Nous qui garantissons leur propriété de la République. Et les ouvriers? Dit Koff. 53 francs, monsieur, cela fait horreur. Et 53 francs tout en sous. La plus forte contribution parmi ces gens-là a été 6 sous. Et messieurs, c'est le cordonnier de mes filles qui a eu le front de donner ces 6 sous. J'espère que vous ne l'employez plus, dit Koff en fixant son œil scrutateur sur le pauvre préfet. Celui-ci eut l'air très embarrassé, car il n'osait mentir, redoutant la contre-police de ces messieurs. Je serai franc, dit-il enfin. La franchise est la base de mon caractère. Barthélemy est le seul cordonnier pour femmes de la ville. Les autres chaussent les femmes du peuple. Et mes filles n'ont jamais voulu consentir, mais je lui ai fait une bonne semonce. » Ennuyé de tous ces détails à 1:15, Levenne dit assez brusquement à monsieur de Riquebourg « Vous plairait-il, monsieur, lire cette lettre de monsieur le ministre de l'Intérieur ?» Le préfet la lut 2 fois, très posément. Les 2 jeunes voyageurs se regardaient. C'est une grande diable de chose que ces élections, dit le préfet après avoir lu, et qui, depuis 3 semaines, m'empêche de dormir la nuit. Moi qui, grâce à Dieu, en temps ordinaire, n'entends pas tomber ma dernière pantoufle. Si, entraîné par mon zèle pour le gouvernement du roi, je me laisse aller à quelques mesures un peu trop acerbes envers mes administrés, je perds la paix de l'âme. Au moment où je cherche le sommeil, un remords, ou du moins une discussion pénible avec moi-même pour décider si je n'ai point encouru le remords, vient chasser le sommeil. Vous ne connaissez point encore cela, monsieur le commissaire. » C'était le nom dont le bon monsieur de Riquebourg affublait Levène. Pour lui faire honneur, il le traitait de commissaire aux élections. « Votre âme est jeune, monsieur. Les soucis administratifs n'ont jamais altéré la paix dont elle jouit. Vous ne vous êtes jamais trouvé en opposition directe avec une population. Ah, monsieur, ce sont des moments bien durs. L'on se demande ensuite, ma conduite a-t-elle été parfaitement pure? Mon dévouement au roi et à la patrie a-t-il été mon seul guide? Vous ne connaissez pas ces pénibles incertitudes, monsieur. La vie est couleur de rose pour vous. En courant la poste, vous vous amusez de la forme bizarre d'un nuage. Ah, monsieur, dit Levène, oubliant toute prudence, toute convenance, et torturé par sa conscience. Votre jeunesse, pure et calme, n'a pas même l'idée de ces dangers. Leur seule mention vous fait horreur. Et je vous en estime davantage. Permettez-moi de vous le dire, mon jeune collaborateur. Ah, conservez longtemps la paix de l'âme honnête. Ne vous permettez jamais, en administration, la moindre action. Je ne dis pas douteuse aux yeux de l'honneur, mais douteuse à vos propres yeux. Sans la paix de l'âme, monsieur, y a-t-il possibilité de bonheur? Après une action douteuse aux yeux de l'honneur le plus scrupuleux, il n'y aurait plus de tranquillité pour votre âme. Le souper était servi et ces messieurs étaient à table. Vous auriez tué le sommeil, comme dit le grand tragique des Anglais dans son Macbeth. Oh, infâme, es-tu fait pour me torturer? Pensait Lucien. Et quoique mourant de faim, il éprouva une telle contraction du diaphragme qu'il ne put avaler une seule bouchée. « Mangez donc, monsieur le commissaire, » disait le préfet. « Imitez monsieur votre adjoint. »« Secrétaire seulement, monsieur, » dit Koff, en continuant à tordre et à avaler comme un loup. Ce mot, jeté avec force, parut cruel à Levène. Il ne put s'empêcher de regarder Koff. Vous ne voulez donc pas m'aider à porter l'infamie de ma mission? Disait ce regard. Koff ne comprit rien. C'était un homme parfaitement raisonnable, mais nullement délicat. Il méprisait les délicatesses, qu'il confondait avec les prétextes que prennent les gens faibles pour ne pas exécuter ce qui est raisonnable ou de leur devoir. Mangez, monsieur le commissaire. Koff, qui comprit cependant que ce malheureux titre choquait Levène, dit au préfet « Maître des requêtes, s'il vous plaît, monsieur. »« Ah ? Maître des requêtes ?» dit le préfet étonné. « Et c'est toute notre ambition à nous autres, pauvres préfets de province, après avoir fait 2 ou 3 bonnes élections. »« Est-ce naïveté sotte ? Est-ce malice ?» se disait Levène, peu disposé à l'indulgence. « Mangez, monsieur le maître des requêtes. Si vous ne devez m'accorder que 36 heures, comme me le dit le ministre dans sa lettre, j'ai à vous dire bien des choses, à vous communiquer bien des détails, à vous soumettre bien des mesures, avant après-demain à midi, qui serait l'heure où vous quitteriez cet hôtel. » Demain, j'ai le projet de vous prier de recevoir 50aine de personnes, 50aine d'administrateurs douteux ou timides, et d'ennemis non déclarés, ou timides aussi. Les sentiments de tous seront stimulés, je n'en doute point, par l'avantage de parler avec un fonctionnaire qui, lui-même, parle au ministre. D'ailleurs, cette audience que vous leur accorderez, et dont toute la ville parlera, sera un engagement solennel pour eux. Parler au ministre, c'est un grand avantage, une belle prérogative, monsieur le maître des requêtes. Que peuvent nos froides dépêches, monsieur? Nos dépêches qui, pour être claires, ont besoin d'être longues. Que peuvent-elles auprès du compte-rendu vif et intéressant d'un administrateur qui peut dire « J'ai vu ». Ces phrases, à demi-sotte, durait encore à 1h30 du matin. Koff, qui mourait de sommeil, étant allé s'informer des lits, le préfet demanda à Leven s'il pouvait parler devant ce secrétaire. « Certainement, monsieur le préfet. Monsieur Koff travaille dans le bureau particulier du ministre et a pour les élections toute la confiance de son excellence. » Au retour de Koff, monsieur de Riquebourg se crut obligé de reprendre toutes les considérations qu'il avait déjà exposées à Leven, en y ajoutant les noms propres. Mais ces noms, tous également inconnus pour les deux voyageurs, ne faisaient qu'embrouiller à leurs yeux le système d'influence que monsieur le préfet se proposait d'exercer. Koff, fort contrarié de ne pouvoir dormir, voulut du moins travailler sérieusement, et avec l'autorisation de monsieur le maître des requêtes, comme il eut soin de l'exprimer, se mit à presser de questions monsieur de Riquebourg. Ce bon préfet, si moral et si soigneux de ne pas se préparer des remords, articula enfin que le département était fort mal disposé, parce que 8 pairs de France, dont 2 étaient grands propriétaires, avaient fait nommer un nombre considérable de petits fonctionnaires et les couvraient de leur protection. Ces gens-là, messieurs, reçoivent mes circulaires et me répondent des calembres d'aines. Si vous fussiez arrivés 15 jours plus tôt, nous eussions pu ménager 3 ou 4 destitutions salutaires. Mais, monsieur, n'avez-vous pas écrit dans ce sens au ministre? Il est, ce me semble, question de la destitution d'une directrice de la poste aux lettres. Madame Durand, la belle-mère de monsieur Duchâteau, la pauvre femme. Elle pense fort mal, il est vrai. Mais cette destitution, si elle arrive à temps, fera peur à 2 ou 3 fonctionnaires du canton de Tourville, dont l'un est son gendre et les 2 autres ses cousins. Mais ce n'est pas là que sont mes grands besoins. C'est à Mélan, où, comme je viens d'avoir l'honneur de vous le montrer sur ma carte électorale, nous avons une majorité contre nous de 27 voix au moins. Mais, monsieur, j'ai dans mon portefeuille les copies de vos lettres. Si je ne me trompe, vous n'avez pas parlé du canton de Mélan au ministre. Eh, monsieur le maître des requêtes, comment voulez-vous que j'écrive de telles choses? Monsieur le comte d'Alvar, pair de France, ne voit-il pas votre ministre tous les jours? Ses lettres à son homme d'affaires, le bonhomme Rufflet, notaire, ne sont remplies que des choses qu'il a entendues dire, la veille ou l'avant-veille, par son excellence monsieur le comte de Vèze, quand il a eu l'honneur de dîner avec elle. Ces dîners sont fréquents, à ce qu'il paraît. On n'écrit point de telles choses, monsieur. Je suis père de famille. Demain, j'aurai l'honneur de vous présenter madame de Riquebourg et mes 4 filles. Il faut songer à établir tout cela. Mon fils est sergent au 86e, depuis 2 ans. Il faut le faire sous-lieutenant. Et je vous avouerai franchement, monsieur le maître des requêtes, et sous le sceau de la confession, qu'un mot de monsieur d'Alvar peut me perdre. Et monsieur d'Alvar, qui veut détourner un chemin public qui passe dans son parc, protège tout le monde dans le canton de Mélan. Pour moi, monsieur le maître des requêtes, la simple demi-punition de changer de préfecture serait une ruine. 3 mariages que madame de Riquebourg a ébauchés pour ses filles ne seraient plus possibles. Et mon mobilier est immense. Ce ne fut que vers les 2 heures du matin que les questions pressantes, et même quelque chose de plus, de l'inflexible Koff, forcèrent monsieur le préfet à faire connaître une grande manœuvre à laquelle il renvoyait sans cesse. « C'est ma seule et unique ressource, messieurs, et si elle est connue, si l'on peut seulement s'en douter 12 heures avant l'élection, tout est perdu. Car, messieurs, ce département est un des plus mauvais de France. 27 abonnements au national et 8 à la tribune. Mais à vous, messieurs, qui avez l'oreille du ministre, je ne puis rien cacher. Or donc, il faut savoir que je ne lancerai ma manœuvre électorale, je ne mettrai le feu à la mine que lorsque je verrai la nomination du président à demi décidée. Car si cela éclatait trop tôt, 2 heures suffiraient pour tout perdre, messieurs. l'élection comme la position de votre très humble serviteur. Nous posons donc que nous portons pour candidat du gouvernement M. Jean-Pierre Blondeau, maître de forge à Champagné, que nous avons pour rival à chance probable, et malheureusement plus que probable, M. Malot, ex-chef de bataillon de l'ex-garde nationale de Champagné. Je dis ex, quoiqu'elle ne soit que suspendue, mais il fera beau jour quand elle s'assemblera de nouveau. Donc, messieurs, M. Blondeau est ami du gouvernement, car il a une peur du diable d'une réduction du droit sur les fers étrangers. Malot est négociant drapier et en bois de construction et bois de chauffage. Il a de fortes rentrées à opérer à Nantes. 2 heures avant le dépouillement du scrutin pour la nomination du président, un courrier de commerce, réellement parti de Nantes, lui apporte la nouvelle alarmante que 2 négociants de Nantes, que je connais bien, et qui tiennent en leurs mains une partie de sa fortune, sont sur le point de manquer et aliènent déjà leurs propriétés à leurs amis, moyennant des actes de vente antidatés. Mon homme perd la tête et part. Cela, j'en suis sûr. Il planterait là toutes les élections du monde. Mais comment ferez-vous arriver un courrier réel de Nantes, précisément à point ? Par l'excellent Chauveau, le secrétaire général à Nantes, mon ami intime. Il faut savoir que la ligne du télégraphe de Nantes ne passe qu'à 2 lieues d'ici, et Chauveau, qui sait que mon élection commence le 23, s'attend à un mot de moi le 23 au soir ou le 24 au matin. Une fois que M. Malot aura la puce à l'oreille pour ses rentrées de Nantes, je me tiens en grand uniforme dans les environs de la salle des Ursulines où se fait l'élection. Malot absent, je n'hésite pas à adresser la parole aux électeurs paysans. « Et !» ajouta M. de Riquebourg en baissant extrêmement la voix. « Si le président du collège électoral est fonctionnaire public, même libéral, je lâche à mes électeurs en guêtre des bulletins où j'ai flanqué en grosses lettres Jean-Pierre Blondeau, maître de forge. Je gagnerai bien 10 voix de cette façon. Les électeurs, sachant que Malot est sur le point de faire banqueroute. Comment ? Banqueroute ? Dit Levenne en fronçant le sourcil. Eh, monsieur le maître des requêtes, dit M. de Riquebourg d'un air encore plus bénin que de coutume, puis-je empêcher que les bavards de la ville, exagérant tout comme de coutume, ne voient dans la faillite des correspondants de Malot à Nantes la nécessité pour lui de suspendre ses paiements ici? Car avec quoi peut-il payer ici? Ajouta le préfet en affermissant son ton. Si ce n'est avec l'argent qu'il tire de Nantes pour les bois qu'il a envoyés. Coff souriait et avait toutes les peines du monde de ne pas éclater. Cette brèche faite au crédit de M. Malot ne pourrait-elle point, en alarmant les personnes qui ont des fonds chez lui, amener une suspension de paiement véritable? Eh, tant mieux, morbleu, dit le préfet s'oubliant tout à fait. Je ne l'aurai pas sur les bras lors de la réélection pour la garde nationale, si elle a lieu. Coff était aux anges. Tant de succès, monsieur, alarmerait peut-être une susceptibilité. Eh, monsieur, la République coule à plein bord. La digue contre ce torrent qui emporterait nos têtes et incendierait nos maisons. C'est le roi, monsieur, uniquement le roi. Il faut fortifier l'autorité et faire la part au feu. Tant pis pour la maison qu'il faut abattre afin de sauver toutes les autres. Moi, messieurs, quand l'intérêt du roi parle, ces choses-là me sont égales comme 2 œufs. Bravo, monsieur le préfet, 1000 fois bravo. Sicitur ad astra, c'est-à-dire au Conseil d'État. Je ne suis pas assez riche, monsieur, 12 000 francs. Et Paris me ruinerait avec ma nombreuse famille. La préfecture de Bordeaux, monsieur, celle de Marseille, de Lyon, avec de bonnes dépenses secrètes. Lyon, par exemple, doit être excellentissime. Mais revenons, il se fait tard. Donc, je pose 10 voix au moins, gagnées personnellement par moi. Mon terrible évêque, à un petit grand vicaire, fin matois et grand amateur de l'espèce. S'il convenait à son excellence de faire les fonds, je remettrai 25 louis à M. Crochard, c'est ce grand vicaire, pour faire des aumônes à de pauvres prêtres. Vous me direz, monsieur, que donner de l'argent au parti jésuitique, c'est porter des ressources à l'ennemi. C'est une chose à pondérer sagement. Ces 25 louis me donneront une dizaine de voix dont M. Crochard dispose, et plutôt 12 que 10. Le Crochard prendra votre argent et se moquera de vous, dit Leven. La conscience de ses électeurs les aura empêchés de voter au moment décisif. Oh, que non! On ne se moque pas d'un préfet! Dit en ricanant M. de Riquebourg, choqué du mot. Nous avons certains dossiers, avec 7 lettres originales du sieur Crochard. Il s'agit d'une petite fille du couvent de Saint-Denis-en-Bussy. Je lui ai juré que j'avais brûlé ses lettres lors d'un petit service qu'il m'a rendu auprès de son évêque dans l'affaire. Mais le sieur Crochard n'en croit pas un mot. 12 voix ou au moins 10, dit Leven. Oui, monsieur, dit le préfet étonné. Je vous donne ces 25 louis. Il s'approcha de la table et écrivit un bon de 600 francs sur le caissier du ministère. La mâchoire inférieure de M. de Riquebourg s'abaissa lentement. Sa considération pour Leven doubla en un instant. Koff ne put retenir un petit éclat de glotte en voyant la manière dont le bon préfet ajouta. « Ma foi, monsieur, c'est y aller bon jeu, bon argent. Outre mes moyens généraux, circulaires, agents, voyageurs, menaces verbales, etc., dont je ne vous fatiguerai pas, car vous ne me croyez pas assez gauche pour ne pas avoir poussé les choses aussi loin qu'elles peuvent aller. Et, monsieur, je puis prouver tout cela par les lettres de l'ennemi arrêtées à la poste. Et j'en ai 3 au national, détaillées comme un procès-verbal, et, je vous assure, qui doivent plaire au roi. Outre les moyens généraux, dis-je, outre la disparition de Malo au moment du combat, outre les électeurs jésuites de M. Crochard, j'ai le moyen de séduction en faveur de Blondeau. Cet excellent maître de forge n'a pas inventé la poudre, mais il sait quelquefois suivre un bon conseil, faire des sacrifices à propos. Il a un neveu, avocat à Paris et homme de lettres, qui a fait une pièce à l'ambigu. Ce neveu n'est point sot. Il a reçu 1000 écus de son oncle pour faire des démarches en faveur du maintien du droit sur les fers. Il a fait des articles de journaux. Enfin, il dîne au ministère des Finances. Des gens du pays établis à Paris l'ont écrit. Par le premier courrier après le départ de Malo, il m'arrive une lettre de Paris qui m'annonce que M. Blondeau, neveu, est nommé secrétaire général du ministère des Finances. Depuis 8 jours, je reçois une pareille lettre par chaque courrier. Or, 17 électeurs libéraux, je suis sûr du chiffre, ont des intérêts directs au ministère des Finances, et Blondeau leur déclarera net que si l'on vote contre lui, son neveu s'en ressentira. Maintenant, monsieur le maître des requêtes, daignez rejeter un coup d'œil sur le bordereau des votes. Électeurs inscrits, 613 présents au collège, au plus 400. Constitutionnel dont je suis sûr, 178 votants pour Malo, que je gagnerai personnellement. 10 votes jésuites, dirigés en secret par M. Crochard. 12, tablons au plus bas, 10. Total, 198. Il me manque 2 voix. Et la nomination de M. Blondeau neveu, Aristide Blondeau, aux finances, me donne au moins 6 voix. Majorité, 4 voix. Ensuite, monsieur, si vous m'autorisez, dans un cas extrême, à promettre 4 destitutions, je dis parole d'honneur, appuyée par un dédit de 1000 francs déposé en main tierce. je pourrais promettre au ministre une majorité non de 4 misérables voix, mais de 12 et peut-être de 18 voix. J'ai le bonheur que Blondeau est un imbécile, qui de la vie n'a porté ombrage à personne. Il me répète bien tous les jours que personnellement il a une douzaine de voix, mais rien n'est moins clair. Mais tout cela, monsieur, est cher, et je ne puis pas, moi, père de famille, faire la guerre absolument à mes dépens. Le ministre, par sa dépêche timbrée particulière du 5, m'a ouvert un crédit de 1 200 francs pour mes élections. Sur ce crédit, j'ai déjà dépensé 1 920 francs. Je pense que son excellence est trop juste pour me laisser ses 720 francs sur les bras.
Si vous réussissez, il n'y a pas de doute, dit Leven.
En cas contraire, je vous dirai, monsieur, que mes instructions ne parlent pas de cet objet.
Monsieur de Riquebourg roulait dans ses mains le bon de 600 francs de Leven. Tout à coup, il s'aperçut que cette écriture était la même que celle de la lettre timbrée particulière, dont il n'avait raconté qu'une partie à ces messieurs, par discrétion. De ce moment, son respect pour monsieur le commissaire aux élections fut sans borne.
Il n'y a pas de moi, ajouta monsieur de Riquebourg, tout rouge d'émotion de parler à un favori du ministre, que son excellence a daigné m'écrire une lettre de sa main sur la grande affaire N.
Le roi y attache la plus grande importance.
Le préfet ouvrit le secret d'un énorme bureau à cylindre et en tira la lettre du ministre, qu'il lut tout haut, et ensuite il la passa à ses messieurs.
« C'est de la main de Cromier, » dit Koff.
« Quoi ? Ce n'est pas son excellence ? » dit le préfet ébahi.
« Je me connais en écriture, messieurs. »
Et comme monsieur de Roquembourg ne songeait pas à sa voix, elle avait pris un ton aigre et un ton moqueur, entre le reproche et la menace.
« Ton de préfet, » pensa Leven. « Rien ne gâte plus la voix. Les trois quarts des grossièretés de monsieur de Vèze lui viennent d'avoir, 10 ans durant, parlé tout seul au milieu de son salon de préfecture. »
Monsieur de Riquebourg est en effet connaisseur en écriture, dit Koff, qui n'avait plus envie de dormir et de temps en temps se versait de grands verres de vin blanc de Saumur.
Rien ne ressemble plus à la main de son excellence que celle du petit Cromier, surtout quand il cherche la ressemblance.
Le préfet fit quelques objections. Il était humilié, car la pièce de résistance de sa vanité, comme de son espoir d'avancement, c'étaient les lettres de la propre main du ministre. À la fin, il fut convaincu par Koff, qui était sans pitié pour cet honorable amphitryon, depuis qu'il pensait à la banqueroute possible de M. Malot, le drapier marchand de bois. Le préfet resta pétrifié, tenant sa lettre de la main du ministre.
« 4 heures sonnent, » dit Koff. « Si nous prolongeons la séance, nous ne pourrons pas être debout à 9 heures, comme le veut monsieur le préfet. »
Monsieur de Riquebourg prit le mot « vœux » pour un reproche. « Messieurs, » dit-il en se levant et saluant jusqu'à terre, « je ferai convoquer pour 9h30 les personnes que je vous prie d'admettre à votre première audience, et j'entrerai moi-même dans vos chambres à 10 heures sonnantes, jusqu'à ce que vous me voyez. Dormez sur l'une et l'autre oreille. » Malgré ces messieurs, monsieur de Riquebourg voulut leur indiquer lui-même l'heure de chambre, qui communiquait par un petit salon. Il poussa les attentions jusqu'à regarder sous les lits.
« Cet homme n'est point sot, au fond, »
dit Koff à Leven quand le préfet les eut enfin laissés. « Voyez !» Et il indiquait une table sur laquelle un poulet froid, du rôti de lièvre, du vin et des fruits étaient disposés avec propreté. Et il se mit à ressouper de fort bon appétit. Les deux voyageurs ne se séparèrent qu'à 5 heures du matin.
Leven a l'air de ne plus songer à l'accident de Blois, se disait Koff.
En effet, Leven, comme il convient à un bon employé, était tout occupé de l'élection de M. Blondeau. et avant de se mettre au lit, relut le bordereau des votes qu'il s'était fait remettre par M. de Riquebourg. À 10 heures sonnantes, M. de Riquebourg entra dans la chambre de Leven, suivi de la fidèle Marion, qui portait un cabaret avec du café au lait, et Marion était elle-même suivie d'un petit jockey qui portait un autre cabaret avec du thé, du beurre et une bouilloire. « L'eau est bien chaude, » dit le préfet. « Jacques va vous faire du feu. Ne vous pressez nullement. Prenez du thé ou du café. Le déjeuner à la fourchette est indiqué à 11 heures, et à 6, dîner de 40 personnes. Votre arrivée fait le meilleur effet. Le général est susceptible comme un sot. L'évêque est furibond et fanatique. Si vous le jugez à propos, ma voiture sera attelée à 11h30, et vous pourrez donner 10 minutes à chacun de ses fonctionnaires. Ne vous pressez pas. Les 14 personnes que j'ai réunies pour votre première audience n'attendent que depuis 9h30.
« Je suis désolé, » dit Leven.
« Bah, bah, » dit le préfet. « Ce sont des gens à nous, des gens qui mangent au budget. Ils sont faits pour attendre. »
Leven avait horreur de tout ce qui peut ressembler à un manque d'égard. Il s'habilla en courant et courut recevoir les 14 fonctionnaires. Il fut atterré de leur pesanteur, de leur bêtise et de leur air d'adoration à son égard.
« Je serais le prince royal qu'il n'aurait pas salué plus bas. »
Il fut bien étonné quand Koff lui dit « Vous les avez mécontentés, ils vous trouveront de la hauteur. »«
De la hauteur ?» dit Leven étonné.
« Sans doute, vous avez eu des idées, ils ne vous ont pas compris. Vous avez eu 100 fois trop d'esprit pour ces animaux-là. Vous tendez vos filets trop haut. Attendez-vous à des figures étranges à déjeuner. Vous allez voir Mesdemoiselles de Riquebourg. » La réalité passa toutes les prévisions. Leven eut le temps de dire à Koff «
Ce sont des grisettes qui viennent de gagner 40 000 francs à la loterie. »
Une d'elles était plus laide que ses sœurs, mais moins fière des grandeurs de sa famille. Elle ressemblait un peu à Théo de Linde de Serpierre. Ce souvenir fut tout puissant sur Leven. Dès qu'il s'en fut aperçu, il parla avec intérêt à Mademoiselle Augustine, et Madame de Riquebourg vit sur-le-champ un brillant mariage pour sa fille. Le préfet rappela à Leven la visite au général et à l'évêque. Madame de Riquebourg fit un signe d'impatience méprisant à son mari, et enfin le déjeuner ne finit qu'à 1 heure. Et Leven sortit en voiture que 4 ou 5 groupes des amis plus ou moins sûrs du gouvernement l'attendaient déjà, parqués et soigneusement gardés dans différents bureaux de la préfecture. Koff n'avait pas voulu suivre son ancien camarade. Il comptait courir un peu la ville et s'en faire une idée. Mais il eut à recevoir la visite officielle de Monsieur le secrétaire intime et de messieurs les commis de la préfecture.
« Je vais aider au débit de leur vieux temps, » se dit-il.
Et avec son sang-froid inexorable, il sut donner à ses commis une haute idée de la mission qu'il remplissait. Au bout de 10 minutes, il les renvoya sèchement, et il s'échappait pour tâcher de voir la ville, quand le préfet, qui le guettait, le prit au passage et le força d'écouter la lecture de toutes les lettres adressées par lui au comte de Vaise au sujet des élections.
« Ce sont des articles de journaux du troisième ordre, » pensait Koff, indigné. « Cela ne serait pas payé 12 francs l'article par notre journal de Paris. La conversation de cet homme vaut 100 fois mieux que sa correspondance. »
Au moment où Koff se ménageait un prétexte pour échapper à M. de Riquebourg, Leven rentra, suivi du général comte de Beauvoir. C'était un fat de haute taille, à figure blonde et grasse, d'une rare insignifiance. Du reste, joli garçon encore, très poli, très élégant, mais qui, à la lettre, ne comprenait rien de ce qu'on disait devant lui. Les élections semblaient lui avoir troublé la cervelle. Il disait à tout propos,
Cela regarde l'autorité administrative. »
Koff vit par ses discours qu'il en était encore à deviner l'objet de la mission de Leven. Et cependant, celui-ci lui avait envoyé la veille au soir une lettre du ministre, on ne peut pas plus explicite. Les audiences de l'avant-dîner furent de plus en plus absurdes. Leven, qui avait le tort d'avoir agi le matin avec trop d'intérêt, était mort de fatigue dès 2 heures après-midi et n'avait pas une idée. Alors, il fut parfaitement convenable et le préfet prit une grande idée de lui. Aux 4 ou 5 dernières audiences, qui furent individuelles et accordées aux personnages les plus importants, il fut parfait et de l'insignifiance la plus convenable. Le préfet tenait à faire voir par Leven monsieur le grand vicaire Crochard. C'était un personnage maigre, une figure de pénitent, et à ses discours, Leven le trouva fait à point pour recevoir 25 louis et faire agir à sa guise une 12aine d'électeurs jésuites. Tout alla bien jusqu'au dîner. À 6 heures, le salon du préfet comptait 43 personnages, l'élite de la ville. La porte s'ouvrit à 2 battants, mais monsieur le préfet fut consterné en voyant Leven paraître sans uniforme. Lui, préfet, le général, les colonels étaient en grande tenue. Leven, excédé de fatigue et d'ennui, fut placé à la droite de madame la préfète, ce qui fit faire la mine au général comte de Beauvoir. On n'avait pas épargné les bûches du gouvernement. Il faisait une chaleur insupportable, et avant la moitié du dîner, qui dura 7 quarts d'heure, Leven craignait de faire une scène et de se trouver mal. Après dîner, il demanda la permission de faire un tour dans le jardin de la préfecture. Il fut obligé de dire au préfet, qui s'attachait à lui et voulait le suivre, « Je vais donner mes instructions à M. Koff sur les lettres qu'il doit me faire signer avant le départ de la poste. » Il faut non seulement prendre de sages mesures, mais encore en tenir note.
Quelle journée ! Se dirent les 2 voyageurs.
Il fallut rentrer au bout de 20 minutes et avoir 5 ou 6 apartés dans les embrasures des fenêtres du salon de la préfecture avec des hommes importants, amis du gouvernement, mais qui, sous prétexte de la nullité désespérante de M. Blondeau, qui à table avait parlé de fer et de la justice de prohiber les fers anglais, de façon à lasser la patience même des fonctionnaires d'une ville de province. Plusieurs amis du gouvernement trouvaient absurde que la tribune en fût à son 104e procès et que la prison préventive retint tant de centaines de pauvres jeunes gens. Ce fut à combattre cette hérésie dangereuse que Leven consacra sa soirée. Il cita, avec assez de brillant dans l'expression, les Grecs du Bas-Empire qui disputaient sur la lumière incréée du Tabor, tandis que les féroces Osmanlis escaladaient les murs de Constantinople. Voyant l'effet qu'avait produit ce trait d'érudition, Leven déserta la préfecture et fit un signe à Koff. Il était 10 heures du soir. « Voyons un peu la ville !» se disaient les pauvres jeunes gens. Un quart d'heure après, ils cherchaient à démêler l'architecture d'une église un peu gothique lorsqu'ils furent rejoints par M. de Riquebourg. « Je vous cherchais, messieurs !» etc., etc. La patience fut sur le point d'échapper à Leven. « Mais, monsieur le préfet, le courrier ne part-il pas à minuit ?»«
Entre minuit et 1 heure !»
« Eh bien, M. Koff a une mémoire si étonnante que, tel que vous me voyez, je lui dicte mes dépêches. Il les retient à merveille. Souvent corrige les répétitions et autres petites fautes dans lesquelles je puis tomber. J'ai tant d'affaires. Vous ne connaissez pas la moitié de mes embarras. »
Par de tels propos et d'autres encore plus ridicules, Leven et Koff eurent toutes les peines du monde à renvoyer M. Riquebourg à sa préfecture. Les 2 amis rentrèrent à 11 heures et firent une lettre de 20 lignes au ministre. Cette lettre,
adressé à M. Leven père, fut jeté à la poste par Koff. Le préfet fut bien étonné quand, à 11h15, son huissier vint lui dire que le maître des requêtes n'avait pas remis de dépêche pour Paris. Cet étonnement redoubla quand le directeur des postes vint lui dire qu'aucune dépêche adressée au ministre n'avait été jetée à la poste. Ce fait plongea M. le préfet dans les plus graves soucis. À 7h le lendemain matin, le préfet fit demander une audience à Leven pour lui présenter le travail des destitutions. M. de Riquebourg en demandait 7. Leven eut grand-peine à lui faire réduire ses demandes à 4. Pour la première fois, le préfet, qui jusque-là avait été humble jusqu'à la servilité, voulut prendre un ton ferme et parla à Leven de la responsabilité de lui, Leven. À quoi Leven répondit avec la dernière impertinence, et il termina par refuser le dîner que le préfet avait fait préparer pour 2 heures. Un dîner d'amis intimes, il n'y avait que 17 personnes. Leven alla faire une visite à Madame de Riquebourg et partit à midi précis, comme le portaient les instructions qu'il s'était faites, et sans vouloir permettre au préfet de rentrer en matière. Heureusement pour les voyageurs, la route traversait une suite de collines, et ils firent 2 lieues à pied, au grand scandale du postillon. Cette effroyable activité de 36 heures avait placé déjà bien loin le souvenir des huées et de la boue de Blois. La voiture avait été lavée, brossée, etc., à 2 reprises. En ouvrant une poche pour prendre l'itinéraire de M. Vede, Leven la trouva remplie de boue encore humide et le livre abîmé. Chapitre 51. Ces messieurs firent un détour de 6 lieues pour aller voir les ruines de la célèbre abbaye de N. Ils les trouvèrent admirables et ne purent, en véritables élèves de l'école polytechnique, résister à l'envie d'en mesurer quelques parties. Cette diversion délassa les voyageurs. Le vulgaire et le plat qui avaient encombré leur cerveau furent emportés par les discussions sur la convenance de l'art gothique avec la religion qui promet l'enfer à 51 enfants sur ceux qui naissent, etc. « Rien n'est bête comme votre église de la Madeleine, dont les journaux sont si fiers. Un temple grec, respirant la gaieté et le bonheur, pour abriter les mystères terribles de la religion des épouvantements. Saint-Pierre de Rome lui-même n'est qu'une brillante absurdité. Mais en 1500, quand Raphaël et Michel-Ange y travaillaient, Saint-Pierre n'était pas absurde. La religion de Léon X était gaie. Lui, pape, placé par la main de Raphaël dans les ornements de sa galerie favorite, les amours du cygne et de l'Éda répétés 20 fois. Saint-Pierre est devenu absurde depuis le jansénisme de Pascal, se reprochant le plaisir d'aimer sa sœur, et depuis que les plaisanteries de Voltaire ont resserré si étroitement le cercle des convenances religieuses.
« Vous traitez trop le ministre en homme d'esprit, » dit Koff.
« Vous agissez au mieux de ses intérêts, comme nous disons dans le commerce. Mais une lettre de 20 lignes ne le satisfait pas. Probablement, il porte toute sa correspondance chez le roi. Et si l'on consulte, tombe sur votre lettre. On trouvera qu'elle serait suffisante si elle était signée Carnot ou Turenne. Mais permettez-moi de vous le dire, monsieur le commissaire aux élections, votre nom ne rappelle pas encore une masse énorme d'actions de haute prudence. Eh bien, démontrons cette prudence au ministre. » Les voyageurs s'arrêtèrent 4 heures dans un bourg et écrivirent plus de 40 pages sur messieurs Malot, Blondeau et Riquebourg. La conclusion était que, même sans destitution, M. Blondeau aurait une majorité de 4 voix à 18. Le moyen décisif inventé par M. de Riquebourg, la faillite à Nantes, la nomination de M. Aristide Blondeau, secrétaire général du ministère des Finances, et enfin les 25 louis de M. le grand vicaire, furent annoncés au ministre par une lettre à part, tout en chiffres, adressée à M. rue Cherche Midi, numéro 3, dont l'office était de recevoir ses lettres et d'écrire les lettres que son Excellence voulait faire passer pour être de sa main.
« Nous avons fait maintenant les administrateurs comme on l'entend à Paris, »
dit Koff à son compagnon en remontant en voiture. 2 heures après, au milieu de la nuit, ils rencontrèrent le courrier, qu'ils prièrent d'arrêter. Le courrier se fâcha, fit l'insolent, et bientôt demanda pardon à « Monsieur le commissaire extraordinaire », quand Koff, avec son ton sec, eut fait connaître au courrier le nom du personnage qui lui remettait des dépêches. Il fallut faire procès-verbal du tout. Le 3e jour, à midi, nos voyageurs aperçurent à l'horizon les clochers pointus de Caen, chef-lieu du département du Calvados, où l'on redoutait tant l'élection de M. Mérobert.
« Voilà Caen !» dit Koff.
La gaieté de Leven le quitta aussitôt, et se tournant vers Koff avec un grand soupir,
« Je pense tout haut avec vous, mon cher Koff. J'ai toute honte bu, vous m'avez vu pleurer. Quelle nouvelle infamie vais-je faire ici ? » ?»«
Effacez-vous, bornez-vous à seconder les mesures du préfet, travaillez moins sérieusement à la chose. »
« Ce fut une faute d'aller loger à la préfecture. »
« Sans doute, mais cette faute part du sérieux avec lequel vous travaillez et de l'ardeur avec laquelle vous marchez au résultat. » En approchant de Caen, les voyageurs remarquèrent beaucoup de gendarmes sur la route et certains bourgeois marchant raides, en redingote et avec de gros bâtons.
« Si je ne me trompe, voici les assommeurs de la Bourse, » dit Koff.
« Mais a-t-on assommé à la Bourse ? N'est-ce pas la tribune qui a inventé cela ?
Pour ma part, j'ai reçu 5 ou 6 coups de bâton, et la chose aurait mal fini si je ne me fusse trouvé un grand compas avec lequel je fis mine d'éventrer ces messieurs. Leur digne chef, M. N., était à 10 pas de là, à une fenêtre de l'entresol, et criait
« Ce petit homme chauve est un agitateur !»
Je me sauvai par la rue des Colonnes.
En arrivant à la porte de Caen, on examina pendant 10 minutes les passeports des 2 voyageurs. Et comme Leven se fâchait, un homme d'un certain âge, grand et fort, et badinant avec un énorme bâton, et qui se promenait sous la porte, l'envoya faire en termes fort clairs. « Monsieur, je m'appelle Leven, maître des requêtes, et je vous regarde comme un plat. Donnez-moi votre nom, si vous l'osez. »
« Je m'appelle Lustucru, »
répondit l'homme au bâton en ricanant et tournant autour de la voiture.
« Donnez mon nom à votre procureur du roi, monsieur l'homme brave, si jamais nous nous rencontrons en Suisse, »
ajouta-t-il à voix basse. « Vous aurez autant de soufflets et de marques de mépris que vous pouvez désirer pour obtenir de l'avancement de vos chefs. »
« Ne prononce jamais le mot honneur, espion déguisé. »
« Ma foi !» dit Koff en riant presque. « Je serais ravi de vous voir un peu bafoué comme je le fus jadis place de la Bourse.
Au lieu de compas, j'ai des pistolets. »
« Vous pouvez tuer impunément ce gendarme déguisé. Il a l'ordre de ne pas se fâcher. Et peut-être à Montmirail ou Waterloo, il était un brave soldat. Aujourd'hui, nous appartenons au même régiment. »
continua Koff avec un rire amer. « Ne nous fâchons pas. »«
Vous êtes cruel, » dit Leven.
« Je suis vrai quand on m'interroge. C'est à prendre ou à laisser. »
Les larmes vinrent aux yeux de Leven. La voiture eut la permission d'entrer en ville. En arrivant à l'auberge, Leven prit la main de Koff.
« Je suis un enfant. »«
Non pas. Vous êtes un heureux du siècle, comme disent les prédicateurs. » Et vous n'avez jamais eu de besogne désagréable à faire. Je ne vous croyais pas si jeune. Où diable avez-vous vécu? Vous êtes un caillou non uni par les frottements. Aux premières audiences que vous avez données hier, vous étiez comme un poète. »
L'hôte mit beaucoup de mystère à les recevoir. Il y avait des appartements prêts et il n'y en avait pas.
Le fait est que l'hôte fit prévenir la préfecture. Les auberges, qui redoutaient les vexations des gendarmes et des agents de police, avaient ordre de ne point avoir d'appartement pour les partisans de M. Mérobert. Le préfet, M. Boucaud, donna l'autorisation de loger messieurs Leven et Coff. À peine dans leur chambre, un monsieur très jeune, fort bien mis, mais évidemment armé de pistolets, vint remettre sans mot dire à Leven deux exemplaires d'un petit pamphlet, in 18, couvert de papier rouge et fort mal imprimé. C'était la collection de tous les articles ultralibéraux que M. Boucaud de Séranville avait publié dans Le National, Le Globe, Le Courrier et autres journaux libéraux de 1829. « Ce n'est pas mal, » disait Leven. « Il écrit bien. »
« Quelle emphase! Quelle plate imitation de M. de Chateaubriand! À tout moment, les mots sont détournés de leur sens naturel, de leur acception commune. »
Ces messieurs furent interrompus par un agent de police qui, avec un sourire faux et en faisant force question, vint leur remettre deux pamphlets in 8.
« Voilà du luxe! C'est l'argent des contribuables !» dit Coff.
« Je parierais que c'est un pamphlet de gouvernement. »«
Et parbleu, c'est le nôtre !» dit Leven.
« C'est celui que nous avons perdu à Blois. C'est du torpé tout pur !»
Et ils se remirent à lire les articles qui faisaient briller autrefois dans le Globe le nom de M. Boucaud de Séranville.
« Allons voir ce renégat !» dit Leven.
« Je ne suis pas d'accord sur les qualités. » Il ne croyait pas plus en 1829 les doctrines libérales qu'aujourd'hui les maximes d'ordre, de paix publique, de stabilité. Sous Napoléon, il se fut fait tuer pour être capitaine. Le seul avantage de l'hypocrisie d'alors sur celle d'aujourd'hui, c'est que celle en usage sous Napoléon ne pouvait se passer de la bravoure, qualité qui, en temps de guerre, n'admet guère l'hypocrisie.
Le but était noble et grand.
Cela était l'affaire de Napoléon. Appelez un cardinal de Richelieu au trône de France, et la platitude du Boucaud, le zèle avec lequel il fait déguiser des gendarmes, auront peut-être un but utile. Le malheur de ces pauvres préfets, c'est que leur métier actuel n'exige que les qualités d'un procureur de Basse-Normandie. Un procureur de Basse-Normandie reçut l'Empire et le vendit à ses compères.
Ce fut dans ces dispositions hautes et vraiment philosophiques, voyant les Français du XIXe siècle sans haine ni amour et uniquement comme des machines menées par le possesseur du budget, que Leven et Coff entrèrent à la préfecture de Caen. Un valet de chambre, vêtu avec un soin rare en province, les introduisit dans un salon fort élégant. Des portraits à l'huile de tous les membres de la famille royale ornaient ce cabinet, qui n'eût pas été déplacé dans une des maisons les plus élégantes de Paris.
« Ce renégat va nous faire attendre ici 10 minutes. Vu notre grade, le sien et ses grandes occupations, c'est la règle. »
« J'ai justement apporté le pamphlet in 18 composé de ces articles. S'il nous fait attendre plus de 5 minutes, il me trouvera plongé dans la lecture de ses ouvrages. »
Ces messieurs se chauffaient près de la cheminée quand Leven vit à la pendule que les 5 minutes d'attente, sans affectation de la part de l'attendu, étaient expirées. Il s'établit dans un fauteuil, tournant le dos à la porte, et continua la conversation, ayant à la main le pamphlet in 18 couvert de papier rouge. On entendit un bruit léger, et Leven devint toute attention pour son pamphlet. Une porte s'ouvrit, et Coff, qui tournait le dos à la cheminée et que la rencontre de ces deux fats amusait assez, vit paraître un être exigu, très petit, très mince, fort élégant. Il était dès le matin en pantalon noir collant, avec des bas qui dessinaient la jambe la plus grêle peut-être de son département. À la vue du pamphlet, que Leven ne remit dans sa poche que 4 ou 5 mortelles secondes après l'entrée de M. de Séranville, la figure de celui-ci prit une couleur de rouge foncé, couleur de vin. Koff remarqua que les coins de sa bouche se contractaient. Koff trouva que le ton de Leven était froid, simple, militaire, un peu goguenard. « Il est singulier, » pensa Koff. « Combien l'ami militaire a besoin de peu de temps pour s'incruster dans le caractère du français qui le porte ?» Voilà ce bon enfant, au fond, qui a été soldat, et quel soldat, pendant 10 mois, et toute sa vie, sa jambe, ses bras diront « Je suis militaire ». Il n'est pas étonnant que les Gaulois aient été le peuple le plus brave de l'Antiquité. Le plaisir de porter un signe militaire bouleverse ces êtres-là, mais leur inspire avec la dernière force 2 ou 3 vertus auxquelles ils ne manquent jamais. Pendant ces réflexions philosophiques, et peut-être légèrement envieuses, car Koff était pauvre et y pensait souvent, la conversation entre Leven et le préfet s'engageait profondément sur les élections. Le petit préfet parlait lentement et avec une extrême affectation d'élégance, mais il était évident qu'il se contenait. En parlant de ses adversaires politiques, ses petits yeux brillaient, sa bouche se contractait sur ses dents. « Ou je me trompe fort, » se dit Koff, « ou voilà une mine atroce. »« Elle est surtout plaisante, » ajouta Koff, « quand il prononce le mot « monsieur » dans le morceau de phrase « Monsieur Mirobert » qui revenait sans cesse. Il est fort possible que ce soit là un petit fanatique. Il m'a l'air de faire fusiller le Mirobert s'il le tenait à son aise devant une bonne commission militaire comme celle du colonel Caron. Il se peut aussi que la vue du pamphlet rouge ait troublé à fond cette âme politique. Le préfet venait de dire « Si je suis jamais un homme politique. » « Plaisant fa, » pensa Koff, « pour être un homme politique. Si le Cosaque ne fait pas la conquête de la France, nos hommes politiques seront des Tom Jones comme Fox ou des Blifils comme M. Peel. Et M. de Sérenville sera tout au plus un grand chambellan ou un grand référendaire de la Chambre des Pairs. » Il était évident que M. de Sérenville traitait Leven très froidement. « Il le prend pour un rival, » se dit Koff. Cependant, ce petit fa exigu a bien 32 ou 33 ans. Le Leven n'est, ma foi, pas mal. Parfaitement froid, avec tendance à une ironie polie de fort bonne compagnie. Et l'attention qu'il donne à ses manières pour les rendre sèches et leur ôter le ton d'enjouement de bonne compagnie n'ôte point l'attention qu'il donne à ses idées. « Vous conviendrait-il, monsieur le préfet, de me confier le bordereau de vos élections ?» Monsieur de Sérenville hésita, évidemment, et enfin dit « Je le sais par cœur, mais je ne l'ai pas écrit. » « Monsieur Koff, mon adjoint dans ma mission. » Leven répéta les qualités de Koff, parce qu'il lui semblait que monsieur le préfet lui accordait trop peu de part dans son attention. « Monsieur Koff aura peut-être un crayon, et si vous le permettez, notera les chiffres, si vous avez la bonté de nous les confier. » L'ironie de ces derniers mots ne fut pas perdue pour monsieur de Sérenville. Sa mine fut réellement agitée pendant que Koff dévissait, avec le sang-froid le plus provoquant, l'écritoire du portefeuille en cuir de Russie de monsieur le maître des requêtes. À nous deux, nous mettons ce petit homme sur le grill. Mon affaire à moi est de le retenir le plus longtemps possible dans cette position agréable. » L'arrangement de l'écritoire, ensuite de la table, prit bien 1 minute et demie, pendant laquelle Leven fut de la froideur et du silence les plus parfaits. Le fa militaire l'emporte sur le fa civil, se disait Koff. Quand il fut enfin commodément arrangé pour écrire. Et s'il vous convient de nous communiquer votre bordereau, nous pouvons en prendre note.
Certainement, certainement, dit le préfet exigu.
Répétition vicieuse, pensa l'inexorable Koff. Et le préfet dit, mais sans dicter. Il y a de l'habitude de diplomate dans cette nuance.
se dit Leven. Il est moins bourgeois que le Riquebourg. Mais réussira-t-il aussi bien? Toute l'attention que cet être-là donne à la figure qu'il fait dans son salon n'est-elle pas volée à son métier de préfet, de directeur d'élection? Cette tête étroite, ce front si bas, ont-ils assez de cervelle pour qu'il y en ait à la fois pour la fatuité et pour le métier? J'en doute. Vide bimus infra. Leven arriva à se rendre le témoignage qu'il était convenable avec ce petit préfet ergoteur et qu'il donnait l'attention nécessaire à la friponnerie dans laquelle il avait accepté un rôle. Ce fut le premier plaisir que lui donna sa mission, la première compensation à l'affreuse douleur causée par la boue de Blois. Koff écrivait pendant que le préfet, immobile et les jambes serrées vis-à-vis de Leven, disait « Électeurs inscrits, 1280 présents, probablement 900. Monsieur Gonin, candidat constitutionnel, 400. Monsieur de Mérobert, 500. » Monsieur le préfet n'ajouta aucun détail sur les nuances qui formaient ces chiffres totaux, 400 et 500, et Leven ne jugea pas convenable de lui demander de nouveau des détails. Monsieur de Sérenville s'excusa de l'éloger à la préfecture sur les ouvriers qu'il avait et qui l'empêchaient d'offrir les pièces les plus convenables. Il n'invita ces messieurs à dîner que pour le lendemain. Ces trois messieurs se quittèrent avec une froideur qui ne pouvait pas être plus grande sans devenir marquée. À peine dans la rue. « Celui-ci est bien moins ennuyeux que le Riquebourg, » dit Leven gaiement à Koff. Car la conscience d'avoir bien joué son rôle plaçait pour la première fois sur le second plan l'outrage de Blois. Et vous avez été infiniment plus homme d'État, c'est-à-dire insignifiant, et donnant dans le lieu commun élégant et vide. Aussi en savons-nous beaucoup moins sur les élections de Caen après une conférence d'une grande heure que sur celle de M. de Riquebourg après un quart d'heure, dès que vous l'eûtes fait sortir de ses maudites généralités par vos questions incisives. M. de Sérenville n'admettrait nulle comparaison avec ce bon bourgeois de Riquebourg, qui dissertait sur les comptes de sa cuisinière. Il est bien plus commode, il n'est nullement ridicule, il est bien plus confit en méfiance et méchanceté, comme dirait mon père. Mais je parie qu'il ne fait pas son affaire aussi bien que le préfet du Cher. C'est un animal qui a infiniment plus d'apparence que le Riquebourg, dit Koff. Mais il est fort possible qu'à l'user, il vaille beaucoup moins. J'ai bien retrouvé sur sa figure, surtout quand il parle de M. Mérobert, l'âcreté qui fait la seule vie des articles de littérature compris dans le pamphlet rouge. Serait-ce un fanatique sombre qui aurait besoin d'agir, de comploter, de faire sentir son pouvoir aux hommes? Il aurait mis ce besoin de venin au service de son ambition, comme jadis il l'employait dans la critique des ouvrages littéraires de ses rivaux? Il y a plutôt du sophiste, qui aime à parler et à ergoter, parce qu'il s'imagine raisonner puissamment. Cet homme serait puissant dans un comité de la Chambre des députés. Il serait un Mirabeau pour les notaires de campagne. En sortant de l'hôtel de la préfecture, ces messieurs apprirent que le courrier de Paris ne partait que le soir. Ils se mirent à parcourir la ville gaiement. Il était évident que quelque chose d'extraordinaire pressait la démarche ordinairement si désoccupée des bourgeois de province. « Ces gens-ci n'ont point l'air apathique qui leur est normal, » dit Leven. « Vous verrez qu'au bout de 30 ou 40 ans d'élection, le provincial sera moins bête. » Il y avait une collection d'antiquités romaines trouvée à Lillebonne. Ces messieurs perdaient leur temps à discuter avec le custode l'antiquité d'une chimère étrusque tellement verdie par le temps que la forme en était presque perdue. Le custode, d'après son bibliothécaire, la faisait âgée de 2700 ans, quand nos voyageurs furent abordés par un monsieur très poli.
Ces messieurs voudront-ils bien me pardonner si je leur adresse la parole sans être connu? Je suis le valet de chambre du général Fary, qui attend ces messieurs depuis une heure à leur auberge, et qui les prie d'agréer ses excuses de ce qu'il les fait avertir. Mais le général Fary m'a chargé de dire à ces messieurs ses propres mots. Le temps presse.
Nous vous suivons, dit Leven.
Voilà un valet de chambre qui me fait envie.
Voyons si nous pourrons dire tel valet, tel maître. Dans le fait, nous étions un peu enfants d'examiner des antiquités, tandis que nous sommes chargés de construire le présent. Peut-être que dans notre conduite il y avait un peu d'aigreur contre la fatuité administrative du Séranville. Votre fatuité militaire, si vous me permettez le mot, a complètement battu la sienne. » Ces messieurs trouvèrent la porte de leur auberge suffisamment garnie de gendarmes et dans leur salon un homme de 50 ans à figure rouge. Il avait l'air un peu paysan, mais ses yeux étaient animés et doux, et ses manières ne démentaient pas ce que promettait son regard. C'était le général Fary, commandant la division. Avec des façons un peu communes d'un homme qui avait été simple dragon pendant 5 ans, il était difficile d'avoir plus de véritable politesse, et à ce qu'il paraît, d'entendre mieux les affaires. Koff fut étonné de le trouver absolument pur de fatuité militaire. Ses bras et ses jambes remuaient comme ceux d'un homme d'esprit ordinaire. Son zèle pour faire élire M. Gonin, pamphlétaire employé par le gouvernement, et pour éloigner M. Mérobert, n'avait aucune nuance de méchanceté ni même d'animosité. Il parlait de M. Mérobert comme il aurait fait d'un général prussien commandant la ville qu'il assiégeait. Le général Fary parlait avec beaucoup d'égard de tout le monde, et même du préfet. Toutefois, il était évident qu'il n'était point infidèle à la règle qui fait du général l'ennemi naturel et instinctif du préfet qui fait tout dans le pays, tandis que le général n'a avexé qu'une 12aine d'officiers supérieurs au plus. À peine le général Fary avait-il reçu la lettre du ministre, que Leven lui avait envoyé en arrivant, qu'il l'avait cherché. « Mais vous étiez à la préfecture. Je vous l'avouerai, messieurs, je tremble pour notre élection. Les 500 votants pour M. Mérobert sont énergiques, pleins de convictions. Ils peuvent faire des prosélytes. Nos 400 votants sont silencieux, tristes. Je trancherai le mot avec vous, messieurs, car nous sommes au moment de la bataille. » Et tous les 20 ménagements peuvent compromettre la chose. Je trouve nos bons électeurs honteux de leur rôle. Ce diable de M. de Mérobert est le plus honnête homme du monde, riche, obligeant. Il n'a jamais été en colère qu'une fois dans sa vie, et encore, poussé à bout par le pamphlet noir.
« Quel pamphlet ? » dit Leven.
« Quoi ? Monsieur, le préfet nous a pas remis un pamphlet couvert de papier de deuil ?
« Vous m'en donnez la première nouvelle, et je vous serai vraiment obligé, général, si vous pouvez me le procurer. »«
Le voici. »«
Comment ? C'est le pamphlet du préfet ? N'a-t-il pas eu ordre par le télégraphe de n'en pas laisser sortir un exemplaire de chez son imprimeur ?»«
Monsieur de Séranville a pris sur lui de ne pas obéir à cet ordre. »« Ce pamphlet est peut-être un peu dur, il circule depuis avant-hier. » Et je ne puis vous le dissimuler, messieurs. Il produit l'effet le plus déplorable. Du moins, telle est ma façon de voir les choses. »
Leven, qui ne l'avait vu que manuscrit dans le cabinet du ministre, le parcourait rapidement. Et comme un manuscrit est toujours obscur, les traits de satire et même de calomnie contre M. Mérobert lui semblaient 100 fois plus forts.
« Grand Dieu !» disait Leven en lisant. Et l'accent était plus celui de l'honnête homme froissé que celui du commissaire aux élections choqué d'une fausse manœuvre.
« Grand Dieu ! » dit-il enfin. « Et l'élection se fait après-demain ? Et M. Mérobert est généralement estimé en ce pays. Ceci décidera à agir les honnêtes gens indolents, et même les timides. »
« Je crains bien, dit le général,
que ce pamphlet ne lui donne 40 voix de cette espèce. Il n'y a qu'une façon de voir sur son compte. Si le gouvernement du roi ne l'éloignait pas, il aurait toutes les voix, moins la sienne et celle de 12 ou 15 jésuites enragés.
« Mais au moins, il sera avare ?» dit Leven.
« On l'accuse ici de gagner ses procès en donnant à dîner au juge du tribunal de première instance. »
« C'est l'homme le plus généreux. Il a des procès, car enfin nous sommes en Normandie, » dit le général en souriant. « Il les gagne parce que c'est un homme d'un caractère ferme, mais tout le département sait qu'il n'y a pas 2 ans, il a rendu, comme aumône à une veuve, la somme qu'elle avait été condamnée à lui payer à la suite d'un procès injuste commencé par son mari. Monsieur Mérobert a plus de 60 000 livres de rente, et chaque année presque il fait des héritages de 12 ou 15 000 livres de rente. Il a 7 à 8 oncles, tous riches et non mariés. Il n'est point niais, comme la plupart des hommes bienfaisants. Il y a peut-être 40 fermiers dans le pays auxquels il double les bénéfices qu'ils font. « C'est pour accoutumer, dit-il, les fermiers à tenir des livres comme les commerçants. Chose sans laquelle, dit-il, il n'y a point d'agriculture. » Le fermier prouve à M. Bérobert que ses enfants, sa femme et lui, entretenus, il a gagné 500 francs cette année. M. Mérobert lui remet une somme pareille de 500 francs, remboursable sans intérêt dans 10 ans. À 100 petits industriels, peut-être, ils donnent la moitié ou le tiers de leurs bénéfices. Comme conseiller de préfecture provisoire, il a mené la préfecture et a tout fait en 1814 pendant la présence des étrangers. Il a tenu tête à un colonel insolent et l'a chassé de la préfecture le pistolet à la main. Enfin, c'est un homme complet.
« Monsieur de Sérenville ne m'a pas dit le plus petit mot de tout cela. » Il parcourut encore quelques phrases du pamphlet.
« Grand Dieu, ce pamphlet nous perd !»
Et les bras lui tombèrent.
« Vous avez bien raison, général. Nous sommes au commencement d'une bataille qui peut devenir une déroute. Quoique Monsieur Koff et moi n'ayons pas l'honneur d'être connus de vous, nous vous demandons une confiance entière pendant les 3 jours qui nous restent encore jusqu'au scrutin définitif, qui décidera entre M. Mérobert et le gouvernement. Je puis disposer de 100 000 écus. J'ai 7 à 8 places à donner. Je puis demander par le télégraphe autant de destitutions pour le moins. Voici, général, mes instructions particulières, que je me suis faites à moi-même et que je ne confie qu'à vous.
Le général Farry les lut lentement et avec une attention marquée.
« Monsieur Leven, dit-il ensuite, dans ce qui regarde les élections, je n'aurai pas de secret pour vous, comme vous n'en avez pas pour moi. Il est trop tard. Si vous fussiez venu il y a 2 mois, si monsieur le préfet avait consenti à écrire moins et à parler davantage, peut-être eussions-nous pu gagner les gens timides. Tout ce qui est riche ici n'apprécie pas convenablement le gouvernement du roi, mais a une peur effroyable de la République. Néron, Caligula, le diable régneraient qu'on le soutiendrait par peur de la République, qui ne veut pas nous gouverner selon nos penchants actuels, mais qui prétend nous repétrir. Et ce remaniement du caractère français exige des Carrier et des Joseph le Bon. Nous sommes donc sûrs de 300 voix de gens riches. Nous en aurions 350, mais il faut calculer sur 30 jésuites et sur 15 ou 20 propriétaires, jeunes gens poitrinaires ou vieillards de bonne foi, qui voteront d'après les ordres de Monsieur l'évêque, qui lui-même s'entend avec le comité de Henri V. Nous avons dans le département 33 ou 34 républicains décidés. S'il s'agissait de voter entre la monarchie et la République, nous aurions, sur 900 voix, 860 contre 40. Mais on voudrait que la tribune n'en fût pas à son 104e procès, et surtout que le gouvernement du roi n'humilia pas la nation à l'égard des étrangers. De là, les 500 voix qu'espèrent les partisans de M. Mérobert. Je pensais, il y a 2 mois,
que M. Mérobert n'aurait pas plus de 350 à 380 voix inattaquables. Je supposais que, dans sa tournée électorale, M. le préfet gagnerait 100 voix indécises, surtout dans le canton de R, qui a le plus pressant besoin d'une grande route débouchant à D. Le préfet n'a aucune influence personnelle. Il parle trop bien et manque de rondeur apparente. Il est incapable de séduire un bas normand par une conversation d'une demi-heure. Il est terrible même avec ses commissaires de police, qui sont pourtant à plat ventre devant lui. L'un d'eux, un misérable digne du bagne, ou peut-être il a été, monsieur de Saint-Mont, s'est fâché il y a un mois, et dans des termes que vous me dispenserez de répéter, a dit son fait au préfet et le lui a prouvé. Voyant bien qu'il n'avait aucune influence personnelle, M. de Sérenville s'est jeté dans le système des circulaires et des lettres menaçantes au maire. Selon moi, à la vérité, je n'ai jamais administré, je n'ai que commandé, et je me soumets aux lumières des plus expérimentées. Mais enfin, selon moi, M. de Sérenville, qui écrit fort bien, a abusé de la lettre administrative. Je connais plus de 40 maires dont je puis fournir la liste au ministre, que ces menaces continuelles ont cabré. Eh bien, que peut-il arriver après tout? Disent-ils. Il ratera son élection. Eh bien, tant mieux, il sera déplacé et nous en serons délivrés. Nous ne pouvons pas avoir pis. Monsieur Bordier, un maire timide de la grande commune de N, qui a 9 électeurs, a été tellement épouvanté par les lettres du préfet et la nature des renseignements qu'on lui demandait, qu'il a prétendu avoir la goutte. Depuis 5 jours, il ne sort plus de chez lui et fait dire qu'il est au lit. Mais dimanche, à 6 heures du matin, au petit jour, il est sorti pour aller à la messe. Enfin, dans sa tournée électorale, M. le préfet a fait peur à 15 ou 20 électeurs timides et en a cabré 100 au moins, qui, réunis aux 360 que je regarde comme inébranlables, gens qui veulent un roi soliveau gouvernant recta d'après la charte, font bien un total de 460. C'est là le chiffre de M. Mérobert. C'est une bien petite majorité, 10 seulement. Le général, Leven et Koff raisonnèrent longtemps sur ces chiffres, qu'on retourna de toutes les façons. On arrivait toujours pour M. Mérobert à 450 au moins, une seule voix de plus donnant la majorité dans un collège de 900. Mais monseigneur l'évêque doit avoir un grand vicaire favori. Si l'on donnait 10 000 francs à ce grand vicaire? Il a de l'aisance et veut devenir évêque. D'ailleurs, il ne serait peut-être pas impossible qu'il fût honnête homme. Ça, c'est vu.